Salut les agilistes, dans cet épisode nous allons parler de coaching et transformation DevOps avec Frédéric Léger, un sujet un peu technique mais crucial pour l'agilité, donc accrochez-vous, on déploie tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité où tous les 15 jours on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, des techniques et des outils. Je suis Julien Deret et comme toujours accompagné de Pierre Ferré-Ferrand. Comment ça va Pierre ?
Ça va super bien Julien, merci.
Et aujourd'hui nous avons un invité en la personne de Frédéric Léger. Bonjour Frédéric et merci d'être là.
Bonjour Frédéric.
Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs.
Donc aujourd'hui, avec Frédéric, on va parler de DevOps et de transformation DevOps, coaching DevOps, sa place dans l'agilité. On va voir où ça nous mène, tout ça. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Frédéric, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Qu'est-ce qui t'amène chez nous ?
Quelle est ton œuvre ? C'est la question.
Bon, je vais commencer par me présenter moi, donc je m'appelle Frédéric Léger, je suis ce qu'on appelle traditionnellement un administrateur système et réseau, et plus aujourd'hui on nomme ça d'un terme un peu plus moderne, OPS. Je suis assez ancien dans le métier de l'informatique et un bon background sur de l'informatique traditionnelle, et je suis venu un petit peu dans les dernières années me reconvertir dans tout ce qui est le coaching DevOps et l'implémentation de solutions DevOps. Aujourd'hui je suis un coach DevOps, un formateur et un technicien DevOps, si on peut dire comme ça, indépendant. J'ai ma propre société qui s'appelle Web of Mars, donc freelance, et je fais partie aussi d'un groupement de freelance qui est un peu plus large, qui s'appelle Build and Run, qui officie dans la région dont je suis originaire, donc Marseille, Aix-en-Provence, au sud de la France, et où le groupement est né d'un constat qu'on entendait beaucoup parler sur Paris de l'implémentation de DevOps dans telle société, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources côté région Aix-Marseille, et on voulait nous travailler dans cette superbe mouvance qui nous paraissait très attrayante. Donc ça c'est l'origine du groupement qui aujourd'hui a grandi, on est une dizaine de personnes à vouloir travailler dans cette approche DevOps, tous avec des compétences un petit peu complémentaires. Donc ça c'est pour ce qui je suis, et aujourd'hui mes activités principales consistent à aider des sociétés à passer ou à réaliser leur transformation DevOps. On pourra détailler par la suite ce que ça veut dire, mais grosso modo on va les amener à un niveau de maturité sur ce sujet-là, alors que potentiellement ils partent d'une façon de faire un peu ancienne où ils répercutent leur modèle hérité de l'informatique traditionnelle depuis sur une durée assez longue.
Excellent, voilà. Excellent, c'est très clair. Du coup, j'imagine qu'on va pas y couper, on va devoir définir ce qu'est le DevOps. Alors, est-ce que le DevOps, c'est la personne qui s'occupe de déployer les serveurs ? J'entends ça à longueur de conférence, ça me rend fou.
Là, aujourd'hui, c'est une question qui est complexe pour y répondre. Il y a plusieurs définitions du DevOps, et bien souvent, déjà, le plus simple, c'est d'évacuer ce que ce n'est pas. C'est pas une compétence, c'est pas DevOps égale pas administrateur système, très clairement. Ce sont deux choses différentes, même si aujourd'hui on voit que c'est passé dans le langage des recruteurs et on parle d'ingénieur DevOps, qui est presque une hérésie en fait. DevOps c'est une culture avant tout, c'est un framework, mais c'est pas un poste quoi. Il n'y a pas un ingénieur DevOps, c'est des ingénieurs qui travaillent dans le sens DevOps et qui potentiellement ont tous des métiers différents d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est pas aussi, des choses qu'on peut entendre, c'est pas je mets une équipe avec un peu de dev, je rajoute 2-3 ops dans cette équipe et j'ai une équipe DevOps. C'est pas ça, c'est une façon de travailler en équipe en visant un même objectif, Mais c'est surtout, on a vu ces dernières décennies, j'ai envie de dire, se propager l'agilité dans les équipes de développement. Aujourd'hui, ça commence à être de l'acquis, même si c'est peut-être pas vrai partout, mais ça commence à être pas mal ancré, que ce soit Scrum, Safe ou d'autres méthodes. Essentiellement, c'est de là que je rencontre, hein, sur le terrain, qui commence à être bien ancré et bien maîtrisé par les développeurs. Le souci, c'est que si on applique Scrum ou Safe, et qu'on gagne en agilité de développement, on va se retrouver à livrer plus vite, à livrer des releases beaucoup plus rapidement, ou des versions de logiciels beaucoup plus rapidement. Le souci, c'est que si derrière, on n'est pas prêt à déployer rapidement au même rythme qu'elles sont livrées ces fameuses versions de logiciels, bah, en fait, on a accéléré quelque chose, mais on a un embouteillage au niveau de la livraison, et ça crée une espèce de désagréable... sensation qu'il y a un embouteillage à la sortie et qu'en fait on a les développeurs en 4 versions d'avance par rapport à la production et on est peut-être en train de parler d'un bug qui existe en production mais qui a été fixé 3 versions précédentes et du coup bah, il suffit juste de la déployer ou on sait plus trop de quoi on parle et en plus on a l'impression de travailler vite pour pas grand chose, puisque ça bouche à la sortie. Donc là où l'agilité vient combler le gap qu'il y avait entre les métiers et les développeurs pour fluidifier ces échanges et les accélérer, en fait DevOps vient combler l'autre gap, qui est celui qui est entre les développeurs et les opérationnels. Et dans les opérationnels, selon la philosophie DevOps, en fait un développeur c'est toute personne qui participe de près ou de loin au développement d'un logiciel, et en fait du coup c'était pas que des développeurs, c'est des gens qui postent des specs, par exemple, sont des développeurs pour DevOps, des gens qui, peut-être pas les product owners, parce qu'ils sont plus côté, on va dire, métier, mais des gens, en tout cas, qui s'occupent de l'aspect business des développements, qui cadrent des développements, sont tous des développeurs, et des opérationnels sont finalement tous ceux qui participent à son maintien aux conditions opérationnelles, quelle que soit la forme, que ce soit aussi bien les fameux administrateurs système, qu'on appelle plus vulgairement des ops aujourd'hui, mais c'est par un abus de langage, et... mais aussi bien les cellules support, c'est important de comprendre que pour le DevOps, ce sont des ops. C'est tous ces gens, peut-être la cellule sécurité aussi, les gens qui participent au maintien en conditions opérationnelles. Et donc du coup, le DevOps vient combler l'agilité qui était clairement manquante entre les développements et les opérationnels, de manière à accélérer ces livraisons. Et on va faire ça en fait par la mise en place de boucles de feedback, qu'on va essayer de rapprocher le plus possible dans le temps. Donc boucle de feedback, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai une version, je l'envoie très très vite en production, de manière à recueillir des métriques, des retours sur cette version. Elle est mieux, elle est moins bien, elle a des défauts, on les prend, on les note, on les réinjecte dans le backlog des développeurs, et on recommence pour corriger une nouvelle version, et on essaye de cycler le plus vite possible, ce qui explique d'ailleurs le symbole du DevOps que certains ont dû apercevoir, qui est le symbole de l'infini, et qui s'appelle techniquement une route Deming, hein, c'est-à-dire que mais on va répéter à l'infini ce cycle, correction, déploiement, feedback, et on retourne à correction.
Ok, super. Alors du coup, je vais sauter dedans en premier, parce qu'évidemment, il y a ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai découvert dans ma carrière professionnelle, donc sortie de l'école. Donc quand j'étais à l'école, en gros, le DevOps, on l'a couvert, il n'y a pas vraiment de méthodologie à proprement parler, c'est comme tu le disais, c'est plus une approche ou une culture DevOps qu'autre chose. Et ça avait été synthétisé par un de nos professeurs en disant « You're dealing with your own shit ». Pas de commit point, donc en gros c'est tu t'occupes de ta merde après que t'aies commit le code, et sous-entendu que justement avant, comme tu disais, il y avait la grosse scission avec les codes qui pondaient leur release, et du coup c'était aussi sysadmin de les mettre en production. L'idée du coup que je me fais du DevOps et que j'ai vu du coup en entreprise, c'est le fait que justement les ingénieurs sont responsables de la mise en production et justement du monitoring en production pour la prochaine release. Et donc du coup la question que j'ai pour toi, est-ce que depuis que le modèle DevOps, on va dire, s'est généralisé, est devenu un peu plus la culture, est-ce que tu sens que justement le rôle de sysadmin est plus pour devenir un de ces devs du coup que tu places à gauche, à l'opposé des ops qui vont du coup récupérer la livraison? Est-ce que pour toi, du coup, le sysadmin a toujours une place du côté des devs, ou est-ce que justement le fait qu'il y ait de plus en plus de modèles de DevOps, ça a un peu, on va dire, réduit les postes qui s'ouvrent aujourd'hui en tant que sysadmin? Quel est ton point de vue là-dessus, on va dire, sur les 5-10 dernières années?
Je pense pas que ça réduit le nombre de sysadmins à proprement parler. Peut-être par contre ça réoriente un petit peu leur mission. Aujourd'hui on a tendance à considérer, avec justement l'émergence de paradigmes comme le DevOps et d'autres aussi, hein, qui viennent un peu bousculer les lignes, qu'on a en fait une plateforme très globale et très générique, et que les parties opérationnelles, ou la partie sysadmin plutôt, va être plus responsable d'un socle plateforme. Mais par contre, tout ce qui était des métiers des sysadmin qui était très applicatif, on a ce phénomène très caractéristique qu'on appelle le shift left. Shift left, c'est-à-dire on déplace le curseur vers la gauche du mot DevOps, c'est-à-dire vers les devs, c'est-à-dire que bah, tout ce qui est de l'ordre de la sécurité des applicatifs, tout ce qui est de l'ordre du monitoring des applicatifs, de l'infrastructure dans une certaine partie, de l'infrastructure spécifique à l'application, va être redonné aux devs, non pas pour se débarrasser d'une quantité de travail qui serait en trop, mais surtout parce que la meilleure personne pour dire ce dont elle a besoin et comment elle doit être paramétrée, c'est celui qui conçoit l'application. Ou la meilleure équipe pour répondre à cette question, c'est celui qui conçoit l'application. Ça évite des allers-retours qui servent pas à grand-chose, ça oblige les développeurs à apprendre de nouvelles compétences, ça fait changer le métier de développeur. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler aussi du terme de full stack développeur et ce genre de choses, où on demande d'être un peu multicasquette. Et c'est en partie à cause de ça, c'est-à-dire que l'infrastructure, ou du moins les notions nécessaires d'infrastructure, doivent être digérées par les équipes de développement aussi maintenant. Et selon la maturité des entreprises, on voit quand même beaucoup d'infrastructures qui est gérée par les développeurs, et de plus en plus de gestion des sysadmins de leur plateforme comme une plateforme globale à tout faire, à pouvoir recevoir tout ça. L'avantage que ça a pour les sysadmins, c'est que bah, ça libère du temps qui était pas très intéressant et mal employé, à mon sens, pour faire des missions beaucoup plus intéressantes, mettre en place des briques de plateforme très intéressantes pour que les développeurs viennent les consommer. Hein. Typiquement, bâtir son propre cloud privé, public, pour pouvoir venir soutenir le travail des développeurs, avec leur proposer les services dont ils ont besoin, leur proposer des catalogues d'infrastructures un peu toutes prêtes, dire bah, tu veux faire une application front web, chez nous on l'a fait comme ci, comme ça, tu as un catalogue tout prêt et tu peux venir l'utiliser, faire une chose qu'on faisait pas bien avant, le monitoring, la partie capacity planning aussi, qui est quelque chose de très important sur quand on considère les plateformes globales aujourd'hui, et s'occuper de tous les process d'automatisation, parce que il y a quelque chose que j'ai passé un peu sous silence. On parlait de boucle de feedback rapide, mais il y a un gros travail aujourd'hui qui fait partie très clairement de d'un poste de sysadmin, en tout cas d'opérationnel, c'est l'écriture de l'intégration continue, déploiement continu, dont on entend tout le temps parler, à tel point que souvent dans des CV ou chez des recruteurs, c'est un peu synonyme quand on connaît une plateforme de CI/CD, c'est synonyme de DevOps, pas tout à fait, mais il y a cette écriture d'une, en français, usine logicielle qu'on doit écrire, qui nous permet de mettre en place des boucles rapides, c'est-à-dire qu'il y a toute une batterie de tests qui doivent, et d'actions qui doivent être chaînées à partir du moment où un développeur a poussé du code, qui lui permettent de ne pas s'occuper des étapes d'après. Il pousse du code et ça se débrouille. Et derrière, on a différents environnements, la pré-production, la production en environnement terminal sur lequel on veut déployer. On veut que les choses aillent dans l'absolu. On aimerait que ça aille tout automatiquement jusqu'à la production. Après, il y a tout un cheminement en termes de maturité pour en arriver là. Mais dans l'absolu, on veut que tout arrive tout seul en production si ça satisfait les exigences des tests qu'on a définis avant. Mais évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de travail qu'on peut réinvestir. Le temps libéré peut être réinvesti dans tous ces sujets-là qui, sans ça, seraient impossibles à traiter.
Super, merci.
Et donc, est-ce que tu peux nous amener du coup avec toi dans ton métier? Donc t'es coach DevOps, donc tu aides en gros des entreprises. En gros, moi par exemple, je suis je suis une entreprise et j'ai un problème. Est-ce que c'est un problème particulier ou c'est vraiment que de la transition? C'est des problèmes particuliers, DevOps, j'en ai plein.
Mon métier, il peut être par des moments multifacette. Il y a la partie qu'on peut évacuer rapidement, qui est très, très simple, qui est la partie technique. Je peux intervenir sur... j'ai un sujet DevOps, mais je n'ai pas d'expertise pour le faire en interne et je souhaite le sous-traiter. Donc ça, c'est assez facile. Okay. Je fais une réalisation technique, on le fait, on recette ensemble que c'est bien ce qui est attendu, et voilà. Pour moi, c'est OK ou c'est pas OK, mais on corrige et puis ça finit par devenir OK. Ça, c'est la partie qui est vraiment facile. La partie où vraiment le coaching intervient, c'est quand une entreprise dit « En fait, moi, je veux passer à DevOps, mais je ne sais pas par où commencer. » Et j'ai bien compris que c'était une culture. Et en fait, il me faut quelqu'un pour venir... on utilise cette espèce d'anglicisme que j'aime pas trop, qui sonne mal à l'oreille, mais acculturer les gens chez nous, leur faire rentrer la culture dans l'esprit. Et ça, ça arrive pas en 5 minutes. C'est souvent des travaux un peu de longue haleine, qui sont un petit peu hybrides entre vraiment le coaching tel qu'on l'entend, comme un coach de sport, quoi, quelqu'un qui va venir et montrer un petit peu des bons exercices, des bons cas d'usage à faire, et la gestion du changement, comme on peut l'avoir dans des cabinets spécialisés dans la gestion du changement, ou les grandes réformes, ou les migrations, les grosses migrations, ce genre de choses. Mais c'est un petit peu hybride entre les deux, c'est-à-dire qu'on va souvent leur montrer la voie et espérer qu'ils la suivent, et puis revenir la semaine d'après ou le mois d'après, dire alors du coup vous avez fait ce dont on a parlé la dernière fois quand on s'est vu, oui d'accord vous l'avez fait comme ça, alors j'aurais préféré peut-être une autre approche, ou c'est impeccable, c'est ce qu'il fallait faire, et on va comme ça faire grandir les gens tout en leur apportant de la valeur et surtout une sécurité, dans le sens où ils vont s'éviter d'une part d'essuyer les plâtres qu'on essuie forcément quand on fait des choses seul et qu'on découvre les problématiques, parce qu'un petit peu d'expérience ça peut aider pour éviter 2-3 pièges sur le chemin, on va aussi les réconforter dans le sens tu fais bien, t'es sur la bonne voie, vous êtes en tant qu'organisation sur la bonne voie. Ça c'est des missions qui arrivent régulièrement, et même des fois quand il n'y en a pas, on se rend compte que en fait ça en est quand même. C'est-à-dire que réaliser une CI/CD ou passer à Docker, à Kubernetes, je sais pas quoi, que des gros mots techniques, des fois c'est le besoin initial exprimé, mais quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il manque de la culture avant ça, parce que l'outil reste qu'un outil, mais la culture est le truc le plus important en fait là-dedans. Donc c'est peut-être moi qui ai ce travers-là, parce que mon envie de cultiver les gens sur ce sujet-là fait peut-être que je le transforme assez souvent en formation DevOps ou en sensibilisation DevOps, mais assez souvent ça vire sur ce genre de sujet aussi, parce que j'ai l'impression qu'on tire parti de ces outils-là bien que si on a compris les concepts fondateurs qui sont DevOps dessous.
Ouais, j'ai l'impression que généralement les changements de paradigme ils se font un peu comme ça, tu vois. Moi par exemple qui étais développeur, quand tu passais à ce cas-là et que au bout d'un, tu commençais à passer de l'impératif à la programmation fonctionnelle, eh ben au début tu dis oh je vais juste changer ce bout de code là, puis en fait tu te rends compte que ça va pas, après tout le reste c'est un petit peu en dessous de dessous. Donc soit tu fais des trucs un peu crado autour aux boundaries, aux limites pour que ça marche, mais bon tu tires pas vraiment exactement parti, donc bon est-ce que ça vaut vraiment le coup, ou c'est pareil pour faire quand tu fais des stand-up ou des rétros, tu veux juste faire une rétro pour faire une rétro. Ouais, c'est pas ça qui est trop agile, mais en même temps j'ai une rétro sans tout le reste autour, est-ce que ça vaut vraiment le coup si t'as pas vraiment une boucle continue. Donc ça, j'ai l'impression que dans le DevOps c'est un peu pareil, quoi.
C'est des parallèles équivalents, c'est-à-dire que selon moi un outil quel qu'il soit ça reste un outil, mais il y a souvent une raison et une culture qui vont avec, quoi. Et sans ça on a tendance à tordre le modèle et tordre l'outil pour le faire coller à sa vision du monde, qui est peut-être empreint de concepts hérités qui sont faux en fait. Y a un proverbe chinois que j'ai en tête qui dit quand on a un marteau dans la main tout ressemble à un clou. Enfin, c'est peu ça. C'est-à-dire que quand on a appris un modèle, on veut absolument que le monde se torde pour coller à notre modèle, mais des fois c'est un peu plus compliqué que ça, faut ouvrir les yeux des gens pour qu'ils voient le monde autrement et embrassent le modèle.
Ça fait suite avec la question que je voulais te poser, mais du coup, donc c'est un peu l'idée, c'est est-ce que la culture DevOps va de pair avec l'usage de méthodologies agiles ou de l'agilité en général ? Et surtout, par exemple, un cas qui me semble assez évident où la réponse est non, mais je ne sais pas si d'aventure tu l'as eu, c'est est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, d'arriver dans une reprise qui faisait du cycle en V et qui t'appelle pour dire, voilà, on aimerait développer la culture DevOps chez nous, quoi. Et est-ce que dans ces cas-là, et d'ailleurs, est-ce que ça t'est même déjà arrivé de refuser quand tu sentais que ça allait juste pas être possible parce que les gens arrivaient avec beaucoup trop de décalage entre ce qu'ils espéraient faire et quelle était la réalité de là où ils étaient? Et donc dans l'idée, par exemple, est-ce que tu te vois mettre en place ou réussir à mettre en place une culture DevOps sur une entreprise qui fait toujours du cycle en V, ou est-ce que tu penses que les étapes préliminaires avant d'arriver justement à DevOps, moi je le vois un peu plus comme, on va dire, la cerise sur le gâteau, et justement ça se construit par couches avant d'arriver là, mais est-ce que t'as le même point de vue ou peut-être pas du tout?
Alors, je vais répondre à la deuxième question qui est la plus facile à répondre. Oui. Rapidement. La deuxième question, est-ce que ça m'est déjà arrivé de refuser des missions quand je sentais que ça allait être compliqué? La réponse, c'est oui. Je me suis fixé une règle qui est d'accepter des missions de transformation à DevOps suite à différentes expériences qui n'ont pas fonctionné. Hein. J'ai fait des échecs sur certaines transformations DevOps. Et je me suis fixé la règle de dire je n'accepte une mission de transformation DevOps si elle vient d'une forte volonté exprimée par à minima la direction et ou à minima la DSI, j'ai envie de dire la direction informatique, et qu'il y a aussi un écho de volonté dans les équipes. Si c'est comme ça, c'est ok. Et mon critère numéro un, c'est de dire en fait moi je veux avoir accès à tout le monde. Parce qu'en fait, on se rend compte que même quand on commence à dérouler le fil, quand on touche au DevOps, on va parler un petit peu après, il y a aussi un lien avec le cloud computing et ce genre de choses, aussi bien on se retrouve à interagir avec les départements financiers où on va leur révolutionner leur facture d'infra à la fin du mois, puisque ça va plus être du linéaire forfaitaire tous les mois, et ça va être du variable, et alors ça fait beaucoup peur aux équipes qui gèrent les finances d'une société, et donc on peut être amené par exemple à intervenir avec eux. Donc à minima, je veux avoir un accès assez large dans la société. Il y a des missions type qu'il faut à mon sens refuser, c'est celle où on dit mais en fait tu viens, tu vas faire de la régie et tu vas donner l'exemple. En fait, ça, on sait que ça marche pas aujourd'hui. On sait que ça marche pas. Le coaching par l'exemple ou par le ou présenter, en fait, on parle ça de super champion DevOps, en fait, ça fonctionne pas. Parce que du coup, il se retrouve responsable de tout. Et si ça marche pas, c'est sa faute. Et si ça réussit, c'est grâce aux autres. C'est juste pas tenable. Il faut que ce soit les gens. Hein, c'est vraiment proche des problématiques de conduite du changement. Il faut que ce soit les gens eux-mêmes qui décident de changer. Et du coup, on ne peut que montrer la voie, et c'est aux gens de la suivre. Et donc, celle où j'ai dit, où maintenant je dis non, c'est celle où je sens que ce pattern-là va pas être possible, parce qu'on attend trop du coach, et surtout on n'attend pas des missions qui sont de l'ordre du coach.
Ok, cool.
Et du coup, la première question, qui est un peu plus complexe, c'est est-ce qu'on peut faire du DevOps avec du cycle en V sans agilité? Alors je pense honnêtement que c'est possible, par contre je pense pas qu'on en tire tous les bénéfices.
Okay.
Ça reste possible. J'ai des cas très concrets en tête. J'ai eu travaillé avec des sociétés qui font du matériel par exemple, et là on est forcément sur du cycle en V parce qu'ils fabriquent du matériel. Enfin, ils fabriquent un couple matériel-software, plus exactement. Donc, les développements sont un peu calqués sur les cycles de release matériel, nécessairement. Ils peuvent faire des mises à jour de leur logiciel régulièrement, mais les gros challenges de dev, c'est quand on sort un nouveau matos, dans ce cas-là. Et donc, là, ils font du cycle en V. Et malgré tout, on a pu implanter des bribes de DevOps. On peut imaginer des modèles sur lesquels ça peut fonctionner, en fait. Cela dit, c'est pas le plus simple parce que tout ce qu'on s'est dit sur l'usine logicielle, c'est moins intéressant. Les boucles de feedback, elles sont quand même très espacées. on essaye de mettre en place des choses qui nous permettent de nous rapprocher du modèle idéal, mais c'est un peu différent malgré tout. Donc c'est quand même mieux quand on couple à l'agilité.
Ouais. Ok, cool, ça, merci.
Et du coup, un enabler d'agilité que moi j'avais en tête finalement quand j'ai commencé à développer, avant même de penser DevOps, moi je pensais plus sous le prisme de l'agilité, et je me suis rendu compte que le cloud computing c'était un super enabler d'agilité. Genre, t'as besoin de serveurs, boum, t'as tes serveurs, tu veux plus tes serveurs, hop, tu veux faire un Elasticsearch, hop, tu veux changer de base de données, hop, tu fais ça. Je trouvais ça vachement bien. J'imagine que ça a changé la face aussi, parce que même si j'imagine que la culture DevOps a émergé d'elle-même avant le cloud computing, on a commencé déjà à se poser des questions de comment est-ce que je peux, mais c'est peut-être une question que je te pose en fait, je suis pas certain, mais j'imagine que les gens chez eux ont essayé déjà de relier, de mettre ensemble les dev et les ops. Mais du coup, quelle est la place du cloud computing là-dedans? Est-ce que maintenant, peut-être même question pour le cycle en V en fait, est-ce que si j'ai une infra in-house, je peux toujours faire du DevOps à fond?
Il y a différentes choses dans la question. Le premier aspect, c'est que est-ce que je vais répondre par là aussi, je réponds toujours à l'inverse par la deuxième parce qu'elle est plus simple. Est-ce que si j'ai une infra in-house, je peux faire du DevOps? In-house, on-premise, synonyme, ça veut dire avoir son propre data center ou héberger en tout cas ses serveurs, ses propres serveurs, et ne pas les louer chez un vendeur de cloud public. Okay. En fait, on peut, aujourd'hui c'est une réalité, on peut, tout simplement parce que il existe aujourd'hui des technos qui permettent d'avoir la même chose que les vendeurs de cloud public on-premise. Donc assez facilement, on reproduit le même environnement des deux côtés en fait. La seule différence, c'est une question d'investissement de départ. C'est-à-dire que si c'est mes serveurs, il va falloir que j'en achète un certain nombre, et je ne les loue pas à la minute, je dois les acheter et capitaliser dessus pendant un amortissement qui dure 3 ans ou ce genre de campagne de renouvellement de hardware. Quoi. Après, techniquement, ça reste les mêmes briques. Et c'est à tel point vrai que souvent, c'est les mêmes logiciels qui sont utilisés par les cloud providers ceux qui gèrent les data centers in-house. Quoi. Donc ça, on peut tout à fait se replacer dans le même schéma. Après, est-ce que le cloud... qu'il soit public ou privé, le cloud computing, en gros, donc des API qui permettent de piloter de l'infrastructure et de le provisionner à la demande, sont nécessaires pour faire du DevOps? Pas du tout. Il y a eu une époque où on le faisait sans cloud computing. Il y a besoin d'autres moyens, du coup, il y a d'autres moyens pour faire de l'automatisation. Il y a eu de l'automatisation des VM avant l'émergence du cloud computing, avec du VMware, des choses comme Vagrant et tout ça, pour ceux qui connaissent un peu le sujet. Il y a eu de l'automatisation. Julien fait des grimaces, ça remonte à loin, ça commence à remonter à loin, visiblement elle a déjà utilisé.
Je veux plus y penser. Je me rappelle ce passé des VM de plusieurs gigas et de disque dur en disque dur. Ah bah en temps de bord sur ce nouveau projet.
Une limite de la techno, effectivement, ça. Mm-hmm. Mais malgré tout, il y avait de l'agilité là-dedans. Il y avait du DevOps, de l'ADN de DevOps là-dedans. Mais effectivement, l'arrivée du cloud computing est un peu game changer aussi, parce que ça permet de débrider des scénarios qui sont bien plus agiles. Dans le sens où il n'y a pas beaucoup de conséquences d'une part. Je suis pas obligé d'investir des millions pour tester mes hypothèses. Si j'ai besoin d'Elasticsearch, comme tu disais, je déploie des Elasticsearch, et si au bout d'une semaine je me suis trompé, je le brûle, puis j'ai payé une semaine de ce que vaut Elasticsearch chez le cloud computing, chez le cloud provider en question. C'est pas forcément très grave, il n'y a pas de gros enjeux. Il y a aussi un autre point qui est que n'importe quel acteur, aussi petit soit-il aujourd'hui, a accès, en étant chez un cloud public, sur un cloud public, à une infrastructure virtuellement illimitée. Sa seule limite, c'est son compte en banque. Et s'il a beaucoup de clients, et il a potentiellement beaucoup d'argent pour payer une infrastructure aussi grosse qu'il a besoin. Donc du coup, ça donne beaucoup plus de souplesse, et la souplesse nous aide à accélérer, encore une fois, ces boucles de feedback positifs pour cycler plus vite. Hein. Un des grands buts du DevOps, au-delà de fluidifier un petit peu ses livraisons et ses opérations, c'est une conséquence de cette fluidification, disons, c'est de raccourcir quelque chose qui est cher aux ceux qui ont la vision produit, qui est le time to market. Time to market, c'est le temps entre le moment où une idée germe dans la conception d'un produit et où c'est une réalité en production. J'ai l'idée de, tiens, je vais rajouter telle feature, je sais pas quoi, un chat basé sur de l'intelligence artificielle totalement au hasard. Je vais rajouter cette feature dans mon produit, ça fera super bien. Et à partir du moment où j'ai l'idée, est-ce que je mets plusieurs années à sortir la feature? Auquel cas, ça risque d'être trop tard, j'aurais loupé le train de la hype de l'IA, ça sera trop tard. Ou est-ce que je mets quelques semaines et auquel cas, je vais monter dans le train, quoi. Et je serai peut-être parmi les premiers, et ça peut être changer tout en termes de l'adoption de mon application, quelle qu'elle soit. Et donc, plus time to market est court, plus c'est un avantage concurrentiel. Donc c'est important de le fluidifier au maximum.
Si je résume, la culture était là avant les possibilités. Finalement, le cloud computing et le cloud computing a juste permis de donner plus d'outils et plus de vélocité à une culture qui était déjà en place.
C'est plus de cordes à l'arc, effectivement. Mmh. Après, il y a aussi quand même... je ne sais pas si la culture était là avant... C'est un peu en parallèle. C'est-à-dire que autant la culture a maturé dans les mêmes années que le cloud computing est apparu. Donc la question s'est pas vraiment posée dans ce terme, mais on faisait déjà des choses avant l'adoption massive, en tout cas du cloud computing.
Ce qui amène aussi des histoires plutôt intéressantes. Récemment, je crois que c'était le mois dernier, justement la facture de 65 millions de Coinbase qui devait à Datadog. Donc ça met un peu des limites sur justement le cloud computing at scale, et on en voit les limites avec 65 millions. Ça leur a fait mal. J'avais une question pour toi, Frédéric, donc plus on va dire au niveau, pas sur un cas précis, mais quels sont pour toi les plus gros marqueurs qui te permettent, mettons s'il y en avait trois, quels sont les trois marqueurs qui te permettent rapidement de voir la maturité d'une entreprise dans la culture DevOps ou pas? Est-ce qu'il y a des marqueurs précis qui te permettent d'identifier relativement rapidement, on va dire, ou est-ce qu'il faut vraiment faire une analyse complète du fonctionnement de l'entreprise pour savoir à quel point une entreprise, on va dire de 1 à 10 sur la culture DevOps, est-ce qu'il y a quand même des gros indicateurs qui permettent rapidement de donner un 10 ou un 1, ou est-ce qu'il faut toujours analyser en profondeur?
Ouais, il y a tout ce qu'il faut dans la culture DevOps pour ça. Okay. Je peux peut-être expliquer rapidement comment moi je fais quand j'arrive dans une société pour évaluer la maturité DevOps et les axes d'amélioration, ouais, à la fois. Généralement, moi j'aime bien travailler, c'est peut-être pas la façon unique, hein, il y en a peut-être d'autres font peut-être autrement, mais j'aime bien partir d'un rapport d'étonnement. À la limite, je préfère ne rien savoir sur la société, de faire quelques jours en immersion et vraiment de voir vraiment tous les métiers, pas tous, quoi. Ça sert pas à grand chose que j'aille voir un call center, je sais à quoi ça ressemble. Ça sert pas à grand chose que j'aille voir un entrepôt logistique, mais vraiment comprendre le métier déjà, comprendre après la chaîne, comment s'inscrit la chaîne de développement et de livraison en production dans ce contexte là et de vraiment noter les rapports d'étonnement, les points qui m'étonnent. Parce que j'ai beaucoup de recul de par mon ancienneté dans le métier et de par le nombre de clients que je brasse dans une année ou depuis que je fais ça. Et du coup, il y a des choses, je veux dire, tiens, c'est marrant, ça vous l'avez fait comme ça. Ailleurs, il y a plutôt un consensus qui se dégage et vous prenez le contre-pied du consensus. Est-ce que c'est, au final, l'étonnement, c'est est-ce qu'il y a une bonne raison? Il y a peut-être quelque chose dans le métier qui l'explique. Ou sinon, est-ce que c'est juste parce que vous avez pris cette voie-là, parce que vous ne saviez pas comment faire autrement, vous avez exploré, et c'est quelque chose qu'on peut revoir. Parce que d'abord, si en gros il y a un consensus, c'est qu'il doit y avoir une raison pour laquelle les gens se sont auto-alignés sur un consensus. Et deuxièmement, au-delà d'une raison, ça peut d'avoir quelque chose qui est un consensus peut amener plus de lisibilité si vous avez des nouveaux embauchés, des auditeurs, quoi que ce soit. Donc ça peut être une des réponses. Bah, si on peut le changer et revenir au consensus, tant mieux. Et s'il y a une bonne raison, bah, il faut au moins la documenter et le justifier, quoi. Et capitaliser dessus. Et après, en termes d'indicateurs, ça me fait penser à deux choses. Donc, pendant ce rapport d'étonnement, je vais aussi essayer de sortir un score de la maturité de la boîte DevOps. Il y a deux choses. Par rapport à la boîte, DevOps se base sur 5 piliers essentiels qui se résument par l'acronyme CALMS. Et c'est pour ça que des fois, on peut voir passer des petites photos avec marqué « Keep CALMS and do DevOps ». Parce que ce CALMS, c'est un acronyme qui veut dire culture. Le premier pilier, c'est la culture DevOps, qui doit être partagée. Tout le monde doit être aligné sur la même culture. Le A, c'est pour l'automatisation. On repose beaucoup sur l'automatisation dans la culture DevOps. C'est-à-dire que faire des tâches manuelles, non seulement quand elles sont répétitives, c'est valorisant pour personne, mais en plus, il y a une source d'erreur. Donc, on va préférer automatiser. Même si on se trompe en automatisant, on le corrigera, mais au moins la fois d'après, ça sera répétable. Le L, c'est pour Lean. On va minimiser les efforts possibles. Ça, c'est commun, complètement commun avec l'agilité. Et ça va s'inscrire dans le prolongement. Hein, minimiser les efforts à fournir, le bon effort au bon endroit, au bon moment. Le M, c'est pour mesure ou monitoring. Il y a en fait, comme on va livrer des versions très très rapprochées et idéalement livrées en continu, c'est-à-dire à n'importe quel moment de la journée, ben notre seule façon de réagir si jamais on présente un problème qu'on n'a pas détecté dans notre chaîne de tests en amont, c'est le monitoring. La seule chose qui doit nous alerter, c'est le monitoring. Alors, ou dans le pire des cas, les clients, mais c'est un mauvais monitoring. Quoi. C'est le pire des monitorings.
C'est ce que j'allais dire.
C'est les clients qui vous appellent pour dire ça marche pas. Donc, idéalement, on veut avoir une solide solution de monitoring pour nous alerter et nous donner la possibilité de revenir en arrière très rapidement parce qu'on en est aujourd'hui capable, plus facilement qu'avant. Et le dernier S, alors en français, il est traduit par solidarité, j'aime pas trop la traduction, c'est sharing en anglais, c'est-à-dire que c'est le partage des succès, des échecs, mettre en avant les succès, expliquer les échecs et partager tout ça. C'est pas une personne qui a réussi, c'est l'équipe. Chacun a apporté sa pierre avec des profils différents. C'est exactement ce genre de solidarité-là dont il est question, quoi. Donc ça c'est 5 critères sur lesquels on peut évaluer une entreprise de manière globale. Mmh. Bon, c'est sur ces 5 piliers où on les place comment. Et après, à titre plus individuel, si on s'auto-évalue sur le DevOps, il y a l'organisme officiel DevOps qui propose un test qui s'appelle le DASA test, qui est, je crois, une dizaine de critères sur lesquels on peut s'auto-évaluer. Ça forme un cercle en total, et on voit si notre cercle a une forme de cercle, c'est qu'on est bon dans tout. Après, ça a plus une tête de forme d'araignée, là, je pense que vous voyez, c'est les radar graphes, là.
Ouais.
Et on a forcément des points qu'on couvre mal. C'est pas grave, le but c'est pas d'avoir juste en tout, le but c'est que quand je mets ensemble les talents de mon équipe, les zones où je suis moins bon soient couvertes par d'autres, quoi. Et c'est que l'équipe en total fasse le cercle. Okay. Et pas juste une personne. Donc il y a un petit assessment DASA qui est disponible sur le site DevOps Institute, je crois, ou quelque chose comme ça, auquel on pourra retrouver le lien si besoin pour le mettre dans les notes de l'émission, mais qui permet de s'auto-évaluer sur le monde du DevOps, sachant que on n'a pas à être parfait sur tous les axes, quoi.
Ok, super, merci.
Ok, j'ai une dernière petite question pour conclure. Est-ce qu'on peut être trop DevOps? Je m'explique. Quand j'ai eu ma première startup, on n'avait pas encore de clients et on avait déjà Kubernetes.
C'est une vraie bonne question. Est-ce qu'on peut être trop DevOps? J'ai le sentiment que oui, des fois. En prenant un petit peu de recul sur mon métier, des fois, maintenant, on a tendance à réfléchir, effectivement, partir sur Kubernetes tout de suite, partir de mettre en place la CI/CD et machin. C'est beaucoup de temps au début d'un projet. Est-ce forcément nécessaire? Je sais pas. D'un côté, quand c'est pris à la base, c'est souvent plus facile quand même que de devoir le faire sur l'existant, quand l'existant est trop gros. Mais il y a peut-être un juste milieu entre les deux. C'est-à-dire que c'est peut-être très coûteux en temps, en construction et même en... je pourrais même élargir le truc, c'est des fois on se pose la question, tous ces trucs de CI/CD, est-ce bien écologique? Je me pose la question, vraiment, pour faire quoi? Si c'est pour faire mon site web, je finis de plus en plus par me poser la question, quoi. Est-ce que finalement, un bon FTP à l'ancienne où je déposais mes fichiers HTML, est-ce que c'était pas suffisant? Et est-ce que j'ai besoin de toute cette machinerie et de consommer autant d'électricité pour faire ça, quoi? Donc je pense que la réponse peut être oui. Après, encore une fois, je suis pas sûr qu'il faut pas attendre trop tard, quoi.
Ouais. Oui, c'est vrai que généralement quand c'est trop tard, c'est trop tard. Finalement, le coût de mise en place, il explose assez rapidement.
Complètement.
Non, c'est un bon point. Excellent, je vous propose de conclure. Si on espère que l'émission vous aura plu, Frédéric, est-ce que tu peux nous dire du coup où est-ce qu'on peut te retrouver? On mettra évidemment des liens dans les notes, mais c'est le moment de faire de la pub.
Ouais, on peut me retrouver sur le site de ma boîte, webofmars.com déjà, sur Twitter, @webofmars. Et puis mon profil LinkedIn, je laisserai le lien, c'est les trois principaux endroits où j'interagis. Je rajoute juste en physique pour les gens qui sont du sud de la France, en physique on peut me retrouver tous les mois dans le meetup DevOps Ex Marseille que je co-anime avec certains collègues de Build & Run. Si vous êtes de la région marseillaise ou aixoise ou alors de passage dans la région, n'hésitez pas. C'est toujours un moment d'échange sympathique aussi.
Super, le message est lancé. Puis, merci du coup de faire vivre la communauté. toujours sympa d'avoir des meet-ups. Et s'il y a des meet-ups, c'est qu'il y a des gens pour les organiser. Donc, merci beaucoup.
Yes.
Pierre, où est-ce qu'on te retrouve?
Du coup, toujours moi sur LinkedIn ou alors mon site pierre.ferret-ferrand.fr et pour encore 7 semaines au pub avant que je parte, donc profitez-en, c'est maintenant ou jamais.
The clock is ticking. Pour moi, ce sera comme d'habitude julien.deret.fr ou sur Amazon pour mon bouquin ou dans ReLife, le podcast de l'amélioration du quotidien. Merci d'avoir écouté Agilis. Si l'émission vous a plu et que vous avez appris quelque chose, on vous invite à nous laisser une note sur Apple Podcast, sur Spotify ou d'autres plateformes. C'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. Si vous nous découvrez sur LinkedIn, n'hésitez pas à passer un petit commentaire, interagir avec la communauté. Si vous voulez intervenir dans Agilis comme Frédéric, n'hésitez pas à nous passer un petit message et on sera ravis de vous accueillir. En attendant, on vous retrouve dans 15 jours pour de nouvelles discussions sur l'agilité. Salut Frédéric et merci beaucoup. Salut Pierre.
Merci Frédéric, salut Julien.
Merci à vous deux et puis merci à tous les auditeurs.